Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Radio. Le commentaire de
Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
Hey Félix, j'en ai une bonne pour toi.
Vas-y.
Tu veux nous parler du chalet de Adamo?
Oui, oui, oui.
Chalet cet été. Je l'ai loué.
Non.
Écoute ça. Je l'ai loué une ou deux semaines. Écoute, c'est magnifique. On est allé chercher un chalet et là, on est allé. C'était le chalet d'Adamo. Moi, je connais pas Occupation Double. J'ai aucune idée. Okay? On me dit c'est le chalet d'Adamo. Moi, quand tu me dis Adamo, je pense au chanteur français. Exactement. Fait que le nouveau Adamo, on le connaît pas. Fait qu'on va au chalet et tu sais comment c'est quand t'as des filles plus vieilles, quand t'as des enfants plus vieux, ils suivent. Pas, ils veulent pas aller avec toi. Fait que j'appelle ma fille. Hey, ça te tente-tu? Viens au chalet, il y a beaucoup de chambres. Le chalet est vraiment beau. Tu as dit, papa, j'ai mes amis. Je dis, pareil, c'est le chalet d'Adamo. Silence. Elle dit quoi? Adamo, d'Occupation Double? J'ai dit oui. Elle dit, je vais y aller. Elle est une fan d'Occupation Double. Je peux-tu venir avec une de mes amies? On va capoter. On va se faire filmer dans le chalet d'Adamo, dans son jacuzzi. Je dis, OK, viens. Elle est venue avec une de ses amies. Écoute, il se faisait là, des selfies tout le temps dans le jacuzzi d'Adamo, puis tout ça. Un super beau chalet.
Non, bon,
tout
vrai, ça
vitré,
a l'air superbe,
là. Magnifique.
Ça a l'air vraiment d'un bel endroit. Là.
Oui.
Ben, justement, bel endroit, là. Il y a un problème, c'est qu'il y a une poursuite, notre beau Adamo, en raison de son bel endroit qu'il loue à des gens comme toi. Alors, le syndicat de copropriété, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas, tu sais, bon, cette nouvelle-là de Marc-André Lemieux dans le Journal de Montréal pour élargir beaucoup sur les conséquences des Airbnb de ce monde et d'autres sites web, là. Le chalet d'Adamo en question, là, est supervisé par un syndicat de copropriétaires. Parce qu'il y a d'autres chalets. J'imagine que tu en as vu à côté de celui-là, d'autres chalets.
Ben oui, bon. Il y a d'autres chalets.
Bon, tu vois, il y a un syndicat de copropriétaires. Parce que c'est géré comme une copropriété, ces chalets-là. Lui, il loue le chalet, il te l'a loué à toi, il l'a sûrement loué à d'autres également. Quand toi, tu partais, d'autres arrivaient pour
ben
une
oui.
courte période de temps. Toi, tu es, et comme les autres, dans ton droit le plus absolu de louer une habitation pour une courte période de temps. Par contre, il y a plusieurs syndicats de copropriétaires maintenant, en 2020, depuis la montée des Airbnb de ce monde,
ben oui.
qui limitent le temps qu'un locataire peut passer dans l'immeuble du locataire. Donc,
okay.
Exemple, moi, j'habite dans un syndicat, pas un syndicat de copropriété, mais plutôt dans un condo, en fait. Et je suis personnellement très investi sur mon syndicat de copropriété. Puis on a limité le nombre de jours que quelqu'un peut louer son logement. Exemple, ici, on a dit qu'il fallait que ça soit plus de 6 mois. Alors, ça évite d'avoir un va-et-vient incroyable. Puis Adamo, ben, ça a été ça un peu son problème.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Alors, le syndicat de
est-ce que les louaient, il louait pour une semaine, puis après ça, la semaine d'après, c'est quelqu'un d'autre, etc. D'ailleurs, je voulais le louer pour dans le temps des fêtes, parce qu'on avait tellement trippé sur ce chalet-là. On s'est parlé il y a quelques jours en disant, hey, je sais pas s'il est encore libre, mais on devrait aller là dans le temps des fêtes.
Ouais, je pense pas qu'il va l'être, parce moi, ce qui me fait de rire dans ça, c'est que ça s'est judiciarisé. Tu sais, normalement, ça n'a pas à se rendre là. Il y a une demande d'introduction d'instance en injonction permanente et le paiement de dommages et intérêts à travers ça là qui a été déposé le 16 novembre par le syndicat des propriétaires parce que bon on va être dédommagé pour ce qu'il a décidé de faire puis lui notre cher Adamo là il dit qu'il fait de l'anxiété anyway alors ça y tente plus de louer son chalet, il dit « Je vais m'en débarrasser ». Il trouve ça plate de vendre la maison qu'il a gagnée et je suis super persuadé que des jeunes filles comme la tienne, seront super déçus d'apprendre que si leurs parents le louent, le chalet, ben ça sera pas celui d'Adamo.
Hey, mais moi, dis, si j'avais gagné ce chalet-là, parce que c'est ça, lui, il l'a gagné, jamais je le vendrais. C'est une splendeur. Je comprends pas pourquoi il vend ça, mais en tout cas.
Ben non, je sais bien. Ben, je pense qu'il peut faire un bon profit. Peut-être que ça a pris, tu sais, je veux dire, si le chalet, il l'a gagné, d'abord, si, disons, le chalet a pris beaucoup d'argent parce que les habitations secondaires ont pris de la valeur et pendant le temps de pandémie, c'est bien construit, Et c'est beau. Alors peut-être fera-t-il un coup d'argent avec ça. Il fait du rap maintenant. C'est un rappeur. Alias Ademo est maintenant rendu gros big. Et il fait du rap. Et puis, quoi dire de plus sur Ademo?
Okay.
Sauf que moi, quand je pense à Ademo, je pense aussi au chanteur. Puis quand au chanteur Ademo, je pense à Hugues Onfray parce que le disque de Onfray qui chante Bob Dylan, un vieux 33 tours, était à côté de celui d'Ademo chez nous. C'est pas mal mon seul lien avec Ademo. Voilà.
Écoute, tu veux nous parler, c'est JE ce soir, justement, qui parle de Biagrad. On sait, c'est cette entreprise-là qui devait fabriquer des masques et finalement, ça a été un four total. Ça n'a pas fonctionné. Il y a des gens qui ont travaillé là puis qui n'ont pas été payés. Bref, il y a un reportage ce soir là-dessus.
Oui, parce que Madame Geneviève Lorange s'était fait connaître assez récemment, d'ailleurs, faisait partie, si je n'abuse, du groupe des courageuses qui voulait que Monsieur Rozon soit poursuivi dans le cadre d'une action collective. Alors, elle, durant la première vague de la pandémie, quand François Legault a commencé à demander aux gens d'acheter québécois, puis à présenter à chaque jour ses masques faits à gauche, à droite, par le cercle des fermières, les 4H, name it. Alors, elle a profité un peu de cette affaire-là et elle a commencé à vendre beaucoup, à créer, puis c'est une couturière, elle, puis à vendre beaucoup de masques avec son entreprise Bigarade, des couvre-visages, pour être plus juste. Alors, elle est dans Schlaga Maisonneuve, puis ça a foiré, en fait, son affaire parce que il y a 5500 clients qui ont jamais reçu les masques. Moi, je me rappelle, là, au début de la pandémie, on recevait beaucoup de courriels en disant « J'ai acheté un masque à Geneviève Lorange, je ne l'ai jamais reçu. » Puis, ce qui est intéressant en se reposant les yeux là-dessus, tu sais, c'est pas tant de parler de pointer du doigt une entrepreneure québécoise qui en a arraché parce qu'elle fait son mea culpa, elle dit qu'elle n'est pas bonne gestionnaire. Puis, ce qu'on comprend, c'est qu'elle s'est entourée de gens, Madame Lorange, qui n'étaient pas meilleurs gestionnaires qu'elle, voire pire. Puis, il y a de l'argent qui est entré dans ses comptes, parce que là, écoute, comme quand, tu sais, 5000 masques, là, poursuivis, là, pis c'est assez cher, les masques, là.
Ben oui.
Je pense que dans le flux de trésorerie de l'entreprise, il y a beaucoup d'argent, puis le problème, c'est qu'on n'est pas sûr que cet argent-là est encore là. Moi, je pense que c'est ça la vraie question.
Mais est-ce que c'est pas vraiment de la fraude, c'est plus de des gens qui étaient inexpérimentés, c'est ça?
Ben, tu sais, c'est que les crimes financiers, c'est compliqué. C'est que l'intention, le mens rea, comme on dit, n'est pas nécessairement, justement, celui de commettre un acte criminel pour Geneviève, alors Lorange. Et par contre, ça, l'intention peut être pas criminelle au départ, mais il peut se passer des choses dans les comptes après qu'ils deviennent. C'est un peu délicat, cette affaire-là. Écoute,
cette entreprise-là a reçu des subventions du gouvernement pour faire des masques?
Je l'ignore.
Je sais pas. J'espère que non. Parce qu'à un moment donné, là, tu sais, le gouvernement, il faut qu'il fasse attention avec notre argent, là, puis de pas subventionner des entreprises qui sont justement dirigées par des gens incompétents, inaptes, tu sais, qui sont pas bons, puis qui s'en vont directement dans le mur. J'espère qu'il n'y a pas eu une scène d'argent public là-dedans. Mais on va regarder le reportage ce soir.
Écoute,
je veux revenir rapidement. Là, je sais que tu veux parler du gars qui était abattu à Laval. Revenir sur l'UPAC, là, les cinq comparses de Zampino qui ont été libérés. Mmh. Et là, tu regardes ça, tu te dis, attends une minute, là. Ils ont été libérés sur une technicalité parce que les policiers ont fait de l'écoute électronique qui n'était pas appropriée, c'est-à-dire qu'ils ont écouté la conversation d'un des accusés avec son avocat.
Ouais.
Écoute, Félix, moi, je suis pas un génie, OK? Je suis pas quelqu'un qui connaît beaucoup le système de justice puis le code criminel autant que toi. Mais je sais une chose, c'est que les conversations entre un accusé et son avocat, c'est sacré. Tu ne peux pas écouter ça et tu peux surtout pas déposer ça en preuve. Je suis en train de me demander, Christy, les policiers savaient pas ça. Tu voudrais faire déraper une enquête que tu n'agirais pas d'une autre façon. Tu déposerais une affaire. Écoute, ça a l'air bizarre. Ça sent mauvais.
c'est pour ça que le juge qui a relaxé les co-accusés dans ce dossier-là de toute accusation, justement, a parlé de laxisme et de négligence. Parce que, laisse-moi t'expliquer un peu, puis tiens, tu sais, l'homme qui a été abattu, on en reparlera une autre fois, là, parce que j'aurais dû mettre ça, en fait, probablement en tête de liste de mes sujets, parce que l'écoute électronique entre un client et son avocat, c'est ce qu'on appelle le privilège avocat-client qu'on est en train de violer quand on le fait. Mais ça se fait de l'écoute. Mais c'est extrêmement encadré. Je te donne un exemple. L'avocat de la mafia, Loris Cavalière, lors de l'opération Mago Mastiff et lors des opérations Clemenza, il a fait l'objet d'écoute électronique. Regarde comment c'est précis, puis regarde comment c'est encadré comme truc. Les policiers avaient placé des micros dans son bureau pour écouter les conversations choisies de certaines personnes, parce que tu peux pas écouter tout le monde.
Ben non, si mettons, il reçoit sa blonde ou quelqu'un de sa famille, t'as pas le droit d'écouter.
Client,
là.
Ou un autre client que celui qui est visé par l'enquête. Alors bon, tout va. Et là, il y a des micros qui sont aussi placés dans une salle de conférence où il rencontre ce même client qui est visé par l'enquête. Mais au sens de la loi, la salle de conférence n'est pas le bureau de l'avocat et présente des spécificités qui font en sorte que cette écoute électronique-là, que toute l'écoute électronique a été déclarée illégale. Et tous les accusés dans ce dossier-là ont vu leur procès se terminer. Il n'a pas eu de procès, fin des procédures, non les prosequi, comme on dit.
Ben oui.
Vito Rizzuto, il y a longtemps, il y a plus de 30 ans de ça, dans une affaire d'importation de hashish, je pense, c'est sur la côte est canadienne. Il a un procès dans les régions atlantiques et la GRC va, je sais pas quelle idée ils ont eue, je sais que ça a été vraiment un scandale à la GRC, va mettre un mouchard caché, un micro près d'un cendrier à la table à laquelle va s'asseoir Vito Rizzuto. Mais à un moment donné, Vito Rizzuto s'assoit avec son avocat parce qu'il est en liberté pendant les procédures. Alors, il va s'asseoir avec son avocat, puis ils vont parler de la cause et des faits de la cause de laquelle il est accusé, Vito Rizzuto. Alors, le résultat, l'avocat s'en est rendu compte. La GRC, ce que la GRC aurait dû faire à ce moment-là, c'est de tout de suite écarter cette conversation-là de la preuve.
Ben
pourquoi s'est-elle retrouvée comme ça dans les mains d'un avocat? Donc, Vito Rizzuto, relaxé aussi des accusations qui ont pu...
Mais c'est ça, on dirait qu'ils font quasiment exprès pour faire avorter l'enquête en disant, hey, écoute, je vais déposer ça comme preuve, puis là, ils vont tirer à plein sur toute l'enquête. C'est vraiment... Moi, je peux pas croire qu'ils ne connaissent pas les policiers. Hey, n'importe qui a regardé The Wire... Moi, j'ai regardé cette série-là, The Wire, la meilleure série jamais faite sur l'écoute électronique, justement.
Ouais.
Eux autres, ils écoutaient là, dans The Wire, les policiers écoutent, puis quand ils se rendent compte, là, soudainement, c'est pas une conversation là, qui implique leur enquête, paf, ils arrêtent. Ils arrêtent l'écoute. Ils ont comme une affaire, comme 15 secondes ou 20 secondes, là, ou 30 secondes, ils écoutent. Puis là, OK, paf, ils doivent arrêter. Christy, écouter et taper, enregistrer les conversations entre un gars et son avocat, je ne peux pas le croire. Écoute rapidement un homme de 31 ans abattu en pleine rue à Laval.
Oui, c'est un homme qui avait des accointances très claires avec le crime organisé. Tu t'en douteras. Alors, plusieurs projectiles d'armes à feu, dont une en pleine tête, son surnom, c'était Cash. Il est mort assez rapidement après avoir été atteint par balle. C'est la SQ qui s'est rendue pour mener l'enquête parce que il y a une notion de crime organisé. Puis, juste à dire aussi que, selon nos informations, voici une exclusivité, Cube Radio, mon cher Fish.
OK.
Selon nos informations, monsieur Cash en question avait repris des routes d'héroïne là un peu partout à Laval et Montréal, donc il jouait dans les grosses ligues en fait, puis il y a son dossier là, judiciaire là, il est vraiment très 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 épais à ce gars-là, c'est in and out de prison à peu près tout le temps, je pense selon nos sources là, dans le crime organisé puis dans ceux qui tentent de mater les crimes organisés, les policiers là, on dit qu'il a fait plusieurs coups pour le crime organisé. Là. Peut-être que lui, ça a mal viré. Son nom complet, c'est Sacha César Nelson. Son surnom, c'est Cash. Et il s'est passé une vingtaine de fois devant les tribunaux depuis 20 ans.
Écoute, le crime organisé, là, quand t'es là-dedans, là, y a deux façons de t'en sortir. C'est soit en prison ou les pieds devant. C'est bien rare que t'en sors calmement à la retraite pépère. C'est assez rare. Et je reviens encore au livre que tu as écrit, La Source et le documentaire. Le gars lui-même te disait ça, là. Hein, Scopa, il disait lui-même. Là. Il y a une façon de s'en sortir, c'est les pieds devant. Merci c'est beaucoup, ça. Félix Séguin. On se reparle demain. Bye. Excellente journée. Alors, Félix Séguin du Bureau d'enquête, Journal de Montréal, Journal de Québec.